Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Nous commençons aujourd'hui une série qui portera sur les relations qu'Abraham entretenait avec son neveu Lot.
Les passages de la Bible relatant l'histoire de ces deux personnages ne sont pas forcément bien connus. Toutefois, ils sont riches en instructions et en encouragement pour notre propre parcours spirituel.
Dans un instant, Antoine nous rejoindra sur le plateau pour nous parler d'Abraham et de son neveu Lot. Mais auparavant, Sandra va nous lire Genèse chapitre 14, versets 5 à 16.
Un an plus tard, Kedor-Laomer se mit en campagne avec les rois qui lui étaient alliés. C'est alors que les rois de Sodome, de Gomorre, d'Adma, de Tseboïm et de Béla s'avancèrent et se mirent en position de combat dans la vallée de Sidim. Ils étaient 4 rois contre 5. Les rois de Sodome et de Gomorre prirent la fuite. Or, il y avait dans la vallée de Sidim beaucoup de puits de bitume, et des fuyards y tombèrent. Les rescapés s'enfuirent dans la montagne. Les vainqueurs s'emparèrent de tous les biens de Sodome et de Gomorre et s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi Lot, le neveu d'Abram, avec ses biens, car il demeurait à Sodome. Un rescapé vint annoncer la nouvelle à Abram l'Hébreu qui habitait près des chênes de Mamré l'Amoréen. Quand Abram apprit que son parent avait été emmené captif, il arma 318 hommes bien entraînés, nés dans sa maison, et poursuivit les 4 rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe et attaqua les ennemis pendant la nuit avec ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Hoba, au nord de Damas. Il récupéra tout le butin. Il ramena aussi Lot, son parent, ainsi que ses biens, les femmes et les autres prisonniers.
Bonjour Antoine et merci d'être de retour parmi nous.
Tout le plaisir est pour moi et bonjour à tous.
Antoine, la dernière fois, nous avons appris qu'Abraham et Lot ne pouvaient plus vivre ensemble côte à côte, car le troupeau était devenu si important qu'ils ne trouvaient plus assez de quoi les nourrir. Lot, qui avait trouvé la plaine attrayante, partit vivre près des villes de Sodome et de Gomorre. Toutefois, la Bible laisse entendre que la décision de Lot manquait de sagesse, car il s'éloignait de la terre où Dieu avait promis sa bénédiction, pour vivre auprès des gens de mauvaise influence. Dans le texte lu aujourd'hui, nous découvrons que Lot s'est retrouvé au cœur d'une grande bataille. Cela est-il la preuve que Lot s'était trompé?
Nous ne pouvons pas blâmer Lot pour les ennuis qu'il a endurés à cause de la guerre tribale qui tout à coup a éclaté. Lot n'a en rien contribué à ce conflit. Il a tout simplement eu le malheur de se trouver là lorsque des tribus guerrières sont venues s'emparer des richesses de ces villes de la plaine. Il est évident que ces villes riches suscitaient la convoitise de tous. Notons-le bien, Lot s'était installé parmi ces gens, probablement dans l'espoir de s'enrichir davantage. Alors nous pouvons affirmer que si Lot n'avait pas convoité les richesses de cette ville, il aurait probablement pu échapper à ce conflit armé. Toutefois, rien ne laisse suggérer qu'il pouvait deviner qu'une guerre allait éclater.
Ainsi, Lot, sa famille, son entourage et ses biens sont tombés entre les mains de ces guerriers et ils sont devenus captifs. Et Antoine, quelle leçon pouvons-nous retenir de cet épisode?
Nous pouvons apprendre sur les dangers de la convoitise, notamment la convoitise des richesses. Je comprends que des gens démunis peuvent être prêts à tout pour échapper à une situation qui semble désespérée. Cependant, je voudrais encourager chacun à bien réfléchir avant de prendre des décisions mal avisées, car elles pourraient les mettre en danger, comme cela fut le cas de Lot. Certains quittent leurs terres pour aller travailler dans des mines dans l'espoir de s'enrichir. Cependant, la plupart du temps, ce travail est fort dangereux et peu y font fortune. D'autres vont tenter la prostitution ou le trafic de drogue. D'autres rejoignent des milices. Comme pour Lot, le désir de s'enrichir peut nous faire rencontrer des gens de mauvaise influence et nous laisser seuls devant des dangers imprévisibles. Alors, réfléchissons bien avant d'agir. Combien il est préférable de se tourner vers Dieu et de chercher sa volonté. L'auteur du livre des Proverbes nous encourage. Chapitre 3, versets 5 à 8. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. Ne te prends pas pour un sage. Révère l'Éternel et détourne-toi du mal.
Merci Antoine. Lot est donc captif et son oncle Abraham part à son secours.
Abraham va monter une expédition militaire pour libérer son neveu Lot, sa famille et ses serviteurs et reprendre tous ses biens volés.
Mais Antoine, la dernière fois, vous avez affirmé que Abraham était un homme de paix. Et pourtant, nous le voyons aujourd'hui partir en guerre. N'y a-t-il pas là une contradiction?
Abraham ne disposait pas de beaucoup de choix. Il aurait pu abandonner Lot et ses amis à leur sort, mais sa compassion pour son neveu l'a poussé à agir. La situation exigeait malheureusement le recours à la force. Je ne pense toutefois pas qu'Abraham, un homme de paix, ait pris plaisir à entreprendre ce raid militaire. Pour accomplir ses objectifs, Abraham a eu recours à un minimum d'hommes et une fois son action finie, il n'a pas poursuivi la guerre.
Quelles leçons pouvons-nous en tirer? Le recours à la force est-il parfois légitime?
Il me semble légitime d'avoir recours à la force pour protéger ses proches lorsqu'ils sont menacés par des actes violents et que leurs vies sont en danger. Ensuite, selon le contexte et la situation, il est préférable de laisser l'État intervenir en ayant recours à la force si nécessaire. Mais dans de telles situations, il faut être très prudent et s'abstenir autant que possible d'un recours aux armes. User de la légitime défense pour protéger ses proches est peut-être permis, mais surtout pas la vengeance personnelle, non. Et il faut bien faire là la distinction. Dieu a établi nos gouvernements pour qu'ils exercent la justice. Il est donc préférable de laisser l'État décider quant à la manière d'avoir recours à la force pour protéger et secourir ses citoyens.
Merci pour ces remarques. Voulez-vous ajouter autre chose?
Simplement que cet épisode dans la vie d'Abraham peut servir de parabole pour illustrer le salut apporté en Jésus-Christ.
Dites-nous-en davantage.
Tous, sans exception, nous sommes comme Lot. Nous pouvons être attirés par des désirs trompeurs et ces désirs vont nous éloigner de Dieu. Ils vont nous conduire à prendre des décisions mal avisées qui exposeront nos vies à toutes sortes de dangers spirituels, moraux et parfois même physiques. Tout comme Lot fut captif, nous sommes tous esclaves. Esclaves de Satan, esclaves du mal et du péché, esclaves des conséquences de nos choix et de notre conduite. Alors nous avons besoin d'être secourus. Tout comme Abraham partit pour sauver et libérer son neveu Lot, Jésus-Christ veut être notre sauveur. Il veut être notre libérateur.
Mais Jésus n'a pas eu recours à la violence pour sauver les hommes.
Non. Jésus a plutôt subi leur violence. Il fut en effet cloué sur une croix où il fut abandonné et livré à la cruauté des hommes. Là, il y subit le châtiment de Dieu. C'est en s'offrant en sacrifice que Jésus a obtenu notre salut.
Merci Antoine pour toutes ces leçons importantes.
Nous allons à présent passer à notre courte méditation biblique et nous nous pencherons sur le premier épître de Jean. Sandra va nous lire les quatre premiers versets du chapitre 1. Ensuite, Claude nous fera part de ses réflexions.
Nous vous annonçons le message de celui qui est la vie. Nous vous annonçons ce qui était dès le commencement. Nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux. nous l'avons contemplé et nos mains l'ont touché. Celui qui est la vie s'est manifesté. Nous l'avons vu, nous en parlons en témoin. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée pour nous. Oui, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, la communion dont nous jouissons est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Si nous vous écrivons ces choses, c'est pour que notre joie soit complète.
Merci Sandra et bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais me pencher sur les paroles suivantes. La communion dont nous jouissons avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. De nos jours, le mot « communion » a plusieurs sens. Il peut désigner, par exemple, un rite marquant l'entrée d'une personne dans l'Église. Beaucoup de jeunes, par exemple, font leur communion pour exprimer leur désir de s'attacher à l'Église. D'autres chrétiens se servent du mot « communion » pour désigner un tout autre rite, celui de manger du pain et de boire du vin, en souvenir de la mort de Jésus-Christ pour eux. Toutefois, en écrivant, « La communion dont nous jouissons avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ », l'apôtre Jean avait à l'esprit une toute autre définition. Dans ce verset, le mot « communion » n'évoque pas un rituel, mais plutôt la relation que nous pouvons vivre avec Dieu. Être en communion avec une personne, c'est la connaître profondément. C'est avoir des affinités communes. Être en communion avec quelqu'un, c'est travailler ensemble vers les mêmes projets. Être en communion avec un individu, c'est jouir avec lui d'une relation personnelle, épanouissante et heureuse. En fait, Jean nous annonce une nouvelle formidable et merveilleuse. Il est possible de connaître Dieu tel un Père et son Fils Jésus-Christ, comme notre frère. La relation qui existe entre un Père et son Fils est parmi les plus profondes et les plus intimes qui puissent exister. De même, la relation qui unit le croyant à Dieu, son Père, dépasse tout autre en richesse. Elle est la plus profonde en termes de confiance, de soumission et d'harmonie. Connaître Dieu, vivre en communion avec lui, quel privilège et quelle joie! Et c'est à cela que l'apôtre Jean nous invite à participer. Dans la suite de son épître, Jean nous expliquera plus en détail en quoi consiste cette relation, cette communion avec Dieu.
Merci beaucoup, Claude. Nous avons hâte de vous retrouver dès notre prochaine émission d'Espérance aujourd'hui. En attendant, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.